Merci à tous ceux qui se joignent à nous. Si vous étiez là tout à l'heure à l'ouverture de l'émission, je vous disais, je vous promettais de vous dire qu'est-ce qui allait être plus payant que d'investir en bourse et que de mettre de l'argent de côté dans votre RER. Alors, c'est le moment d'avoir la réponse avec notre spécialiste, consultant en œuvre d'art, Alain Lacourcière. Vous le connaissez sans doute. Merci beaucoup d'être là, Alain.
Mon plaisir.
Et vous l'avez déjà dit. C'est drôle parce que je relisais ça dernièrement, effectivement. Investissez dans l'art, vous allez voir, c'est plus payant que la bourse au fil des ans. Vous l'aviez déjà dit, vous, ça?
Oui. Il y a des façons d'investir, intelligemment en art, comme à la bourse ou comme avec un REER. Mais c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une œuvre d'art sur le mur que son REER ou que la page de la bourse. Donc, oui, il y a moyen d'avoir un investissement qui est très rentable et intelligemment, on peut en arriver avec des pourcentages très, très intéressants.
Mais évidemment, la plupart des gens vont dire, ouais, moi, je connais pas trop grand-chose en art, je me laisse pousser parce que j'aime, ce qui m'attire.
Oui.
Est-ce que notre émotion peut être parfois bonne conseillère en art ou il vaut mieux plutôt se tourner vers des spécialistes comme vous? Vous avez été policier pendant presque 30 ans avant de devenir consultant très recherché en œuvre d'art. Comment on fait pour investir justement dans l'art?
C'est sûr qu'avec son cœur, on se trompe jamais parce que c'est quelque chose qu'on aime, mais on peut être conseillé aussi entre deux œuvres, souvent une œuvre qui est muséale, par exemple. C'est-à-dire que l'artiste est reconnu par les musées, donc il y a une possibilité d'un don à un musée dans 10, 15, 20 ans. Mais tout comme un REER ou tout comme la bourse, c'est pas à court terme où on fait pas non plus un gain en deux ans disant qu'on va faire le triple ou le quadruple. Quand les galeries ou les gens vous disent que cet artiste-là va doubler de prix l'année prochaine, il faut être très, très, disons, sceptique ou prendre les moyens pour vérifier ce qu'on dit là. Parce que ça arrive pas, là. Oui, ça peut se développer, mais c'est toujours sur 10 ans qu'on calcule un rendement. On achète dans des galeries reconnues, puis l'artiste qui est représenté par une galerie, des fois, on peut s'informer à d'autres gens dans le milieu quelles sont les galeries. Si cette galerie-là représente cet artiste-là, il y a peut-être beaucoup plus de possibilités que ça se rende dans un musée. C'est ça qui fait un peu la cote d'un artiste. La galerie qui le représente, quelle grande compagnie en a, grande entreprise ou grande fondation, et quel musée en veut, en a ou en voudrait.
Mais ça, quand on est rendu à des toiles, par exemple, d'artistes là, qui sont sur le bord de la porte du musée, là, à la veille d'y rentrer, c'est pas abordable pour tout le monde, ça.
Bien sûr, parce qu'on peut avoir des lithographies, on peut avoir des œuvres sur papier. La plus grande foire d'œuvres d'art au Canada, c'est Papier à Montréal, justement, qui vient d'avoir lieu en avril. Il y a des œuvres de quelques milliers de dollars sur papier, comme des Marc Séguin, des Riopel, des Miro, des
Picasso. Et ça vaut quelque chose, ça?
Bien sûr. Ah ouais. Ça vaut quelque chose et c'est muséal. Donc, il n'y a pas de gain en capital. On n'a pas imposé. On donne à un musée et on a un reçu qui s'applique sur nos impôts à 100 % 125 au Québec.
OK. Donc, ça peut être intéressant.
Bien sûr. Moi, j'ai des clients qui, chaque année, me demandent, j'ai tant de milliers de dollars à payer en impôts, je ne veux pas en payer. Bon, donc, dans ta collection, tu vas donner ce tableau-là, à tel musée, à tel autre musée, et tu vas avoir un reçu pour fin d'impôt de 10 000, de 100 000, d'un demi-million, et tu ne paieras pas d'impôt.
Donc, il faut se monter une collection.
Oui, on se monte une collection, et il y a des gens qui, oui, investissent en art, parce qu'ils aiment ça, c'est dans leur salon, c'est dans leur maison, et il y a des œuvres qui vont être justement entreposées ou sécurisées à la banque. Ça, c'est un but de donation, c'est un but d'un investissement. Il y a deux façons de le voir, il y a deux façons. Oui, il y a des gens qui ne font que collectionner que pour investir. Il y en a d'autres que ce n'est que pour par l'amour de l'art. Mais souvent, les grands collectionneurs, c'est les deux. On sait très bien que cette œuvre-là, c'est une œuvre un blue chip, comme on appelle à la bourse.
Et, comme par exemple?
Comme par exemple, ici au Québec, on peut parler de Riopel, on peut parler de Picasso, on peut parler de Chagall.
Le fameux Chagall.
Donc, ça, on est sûr que ça va toujours être muséal. Ça va toujours... Bon, Marc Séguin, présentement, il y a beaucoup d'autres artistes, des jeunes, mais encore là... La galerie qui le représente fait foi souvent du professionnalisme.
Mais il faut quand même s'y connaître parce que vous venez, Alain Lacourcière, de nommer Jean-Paul Riopel. Bon, oui. Riopel, moi j'en ai déjà eu un que j'aimais beaucoup, qui était dans ce qu'on appelait sa période bleue, mais que j'avais payé pas cher parce que ça valait pas cher. Puis d'ailleurs, quand je l'avais acheté dans une vente aux enchères, j'ai fini par le revendre dans une vente aux enchères. Oui. J'ai pas fait une scène là-dessus parce que c'était pas un Riopel de la grande époque.
Non, les années 52, 54.
Voilà, c'est ça.
Là,
donc il faut connaître ça. C'est comme les Lemieux. Les Lemieux sont magnifiques. Si vous êtes dans bonne... Chaque artiste a un peu sa période et hors période.
Oui.
ça vaut pas forcément plus grand-chose que quelqu'un d'autre qui serait inconnu.
Non, mais évidemment, faut connaître, oui, la période où on engage quelqu'un comme moi qui va dire, oui, ça va prendre beaucoup plus de valeur cette année-là. Souvent, en deux ans, là, une période de 56 ou 54 de Riopel, on met un zéro de plus pour la même grandeur.
Et,
oui. Les années 52, il y a 38 tableaux qui ont été faits en 52, sont recherchés, c'est sûr que ça sort à des prix. Les gens attendent, les grands collectionneurs attendent tout le 52 qui va sortir, puis il y en a un qui est sorti l'automne dernier. L'évaluation que j'en avais faite, c'était à 4 millions, il est sorti à 7,5 millions.
Ah, mon Dieu!
Donc, c'est ça, c'est on peut pas prévoir le prix d'une œuvre majeure qui va être sur le marché. Il y a des encans qui s'en viennent, là. À la fin mai, c'est les plus gros encans au Canada, à Toronto. Il y a Buy Dealers et FL qui sont les deux encans là majeurs, et on va avoir là pour des millions d'œuvres en vente avec des blue chips. Ce ne sont que des œuvres majeures. Jean-Paul Riopel, Bordua, il y a un Bordua incroyable qui va être en vente que tout le monde attend.
Et vous l'évaluez à combien, ce Bordua-là?
Je ne peux vous le dire parce que j'ai un client sur le tableau et je ne veux pas vous dire l'évaluation que j'en ai faite là parce que je me coupe l'herbe sous le pied.
C'est incroyable, mais c'est un peu tout le temps les mêmes personnes finalement qui s'échangent ça. Nous autres, on regarde ça.
Dans ces millions-là, oui, tout le monde dans le milieu connaît la collection de telle ou de telle personne, oui. Mais à un autre niveau, là, les encans ou dans les galeries, il y a des jeunes collectionneurs. Moi, j'ai des jeunes collectionneurs dans la trentaine là, qui vont se monter une collection, mais qui veulent aussi investir. Et j'en ai un d'ailleurs qui a beaucoup de lithographies de Riopel et c'est intelligent. Souvent, il va avoir la même lithographie, là, qui est un multiple de 75. Oui. Il va l'avoir deux, trois fois parce qu'il l'aime. Okay. Mais il y en a une pour garder et il y en a deux pour donner. Donc, il va les donner chaque année. Il en donne dans des musées et il paye zéro impôt.
Ah oh ben!
Eh oui! J'ai des professeurs d'université que je coach aussi, puis les professeurs d'université qui vont récupérer tout l'impôt qu'ils ont payé à la source.
Quelqu'un qui nous écoute, Alain Lacourcière, puis qui dit, OK, mais là, ça peut peut-être être intéressant parce que je trouve que mon REER n'a pas beaucoup de rendement, ou je veux pas m'acheter un bloc appartement parce que des locataires qui payent pas, j'en ai soupé. Je me lance dans l'art. Oui. Comment on se part une collection?
On va voir quelqu'un qui s'y connaît, une galerie réputée, par exemple.
Mais on va pas payer trop cher en faisant ça, en commençant?
Non, parce que si le but, c'est de collectionner et c'est d'investir, on parle de 10 ans. Donc, on achète une lithographie, par exemple, de Riopel à 5 000 $. On sait que demain matin, on la revend, cette galerie-là. La galerie va se garder une marge, va se garder 50, 30, mais si on revend à la même... Mais si on revend à la même galerie, il va souvent se garder moins que ça.
Ouais.
Donc, notre 5 000 $, on va récupérer 3 000. Bon, OK. Mais dans 7 ans, là, la lithographie de Riopel, elle va être rendue à 8 000. Et là, on va faire notre 5 000 $. Et dans 10 ans, c'est là qu'on va commencer à faire de l'argent puis qu'on va se dire, bon, ben j'ai fait 6 % par année sur les 12 ans, 15 ans que je l'ai eu. C'est là qu'on fait le pourcentage.
À moins de tomber dans des modes, parce qu'il y a une certaine époque, je pense aux peintres hollandais, par exemple. Il y a 15 ans, les peintres hollandais, c'était la grosse affaire. Là, on pouvait payer des milliers de dollars pour un tableau. Aujourd'hui, moi, peut-être te le prendre si tu me le donnes, mais sinon, ça vaut rien. Il y a des modes là-dedans. Aujourd'hui, tout le monde est parti sur l'art moderne. L'art moderne, là, le pop art, le street art, les gens, là, beaucoup de collectionneurs vont là-dedans. Les photos aussi, la photographie est devenue un médium artistique extrêmement cher, là, qui prend beaucoup de valeur. Comment on peut savoir que la tendance, la mode, comment savoir ça là? Comment se développer son nez de, comme vous là?
Ben, y a
des années,
moyens
des années
faire.
À reculer.
Oui, exactement.
C'est ça?
Non, mais en histoire de l'art à l'université, ça aide aussi. Oui. Mais c'est par la suite que j'ai vu comment ça fonctionne. Et comme je vous disais, il y a des modes, il y a des tendances. Puis là, on va payer moins cher pour des artistes, qui sont émergents, par exemple, ou des bons. Mais quand on investit, on peut acheter par coup de cœur pour quelques milliers, OK. Mais lorsqu'on sait que l'artiste vient d'entrer dans les musées ou est accrédité ou va être reconnu par la Commission des biens culturels à Ottawa, où j'ai siégé pendant 3 ans, là, notre valeur est sûre. Vous parliez des Hollandais tantôt.
Ouais.
Mais lorsqu'on a l'artiste, le Hollandais qui est réputé ou qui va être collectionné par un musée, notre investissement est garanti. Parce qu'on va le donner à un musée, la juste valeur marchande va être établie, pas ce qui vaut maintenant, ce qui vaut, mais ce que valent les plus grands Hollandais maintenant d'une vente aux enchères ou en galerie. Donc, on récupère nos sous et on en fait avec un don à un musée. Pour plusieurs artistes québécois, oui.
Est-ce que ça vaut la peine d'aller justement de suivre les ventes aux enchères? Vous savez, il y a beaucoup de compagnies de ventes aux enchères au Québec. Il y a des encanteurs aussi qui parfois ont des toiles. Mm-hmm. Des fois, on ne sait pas. Bon, est-ce qu'on peut tomber sur des affaires intéressantes?
Oui. Dans toutes les ventes aux enchères, moi, j'ai des clients qui vont m'envoyer des photos. Je peux aller jusqu'à combien là-dessus? Ça vaut combien en galerie? J'en ai eu pendant que j'attendais ici, là, 3.
Ah ouais?
Des gens qui m'ont envoyé... le sauteur qui m'a envoyé d'autres artistes et il y en a un encore là qui il me répond pour le sauteur. Est-ce que c'est bon? Je vais jusqu'à combien? C'est sûr que là je vois pas l'œuvre. Au meilleur de mes connaissances, oui, c'est bon. Ou je connais cette série-là de lithographie. Oui, ça m'a l'air bon, mais il faut que je la voie, c'est sûr.
Mm-hmm.
Oui, achète-les. Par la suite, je vais te l'évaluer. Je vais te l'authentifier. Je vais aller voir l'expert qui authentifie les sauteurs, les Riopelle, les Marquerelle Fortin. J'ai une autre œuvre. Je ne donnerai pas l'artiste, mais l'œuvre n'est pas bonne, je suis certain.
Pas bonne parce que...
C'est un faux.
C'est un faux. Ça, c'est l'autre problème.
Oui, exactement. Il y a des artistes qui sont copiés beaucoup au Québec. Il y a des artistes qui... Mais les gens achètent parce que c'est souvent l'appât du gain. Hein, le faussaire ou les personnes qui vont vendre des faux, c'est une vente rapide au 10e ou au 20e du prix.
Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai, c'est ça?
Marquerelle Fortin...
Il est beaucoup
signé,
copié.
Faut faire attention, là. Signé 1945, Stylo Feut est inventé en 62. Là. Bon, c'est sûr que c'est pas ça. Mais... il y a un expert, c'est Jean-Pierre Valentin, qui va être la personne morale qui est désignée par ses pairs comme étant le mieux
le spécialiste du
Marquerelle Fortin. Donc, quand Jean-Pierre Valentin dit « c'est un Marquerelle Fortin », ça vaut 25, 50, 100 000, 200, bon. Mais s'il dit qu'il y a des doutes ou s'il dit que c'est pas bon, c'est pas bon. Même si on était en laboratoire, j'ai fait lundi, cette semaine, une œuvre d'un artiste international très important pour des dizaines de millions de dollars. Et même si on a des tests en laboratoire pour 35 000 $ là, ça vaut pas si la personne ou la fondation ou comme Claude Picasso.
Ouais.
Claude Picasso, c'est la personne, l'entité morale qui est désignée comme étant l'expert. J'ai fait un Picasso de 55 millions qui a été donné en garantie d'un prêt de 20 millions de $. Et ma conclusion, après le tout, ça a été école européenne, 20e siècle, 250 euros. Parce que l'œuvre n'est pas bonne, mais ils ont dépensé des milliers et des... dizaines de milliers de dollars en laboratoire. Moi, j'avais dans ma tête fait la pré-enquête. Ça avait un tableau, ça parle pareil comme une enquête, une scène de crime ou dans la police, c'est la même chose en histoire de l'art. En histoire de l'art, le tableau, les matériaux, tout ça, ça parle, ça nous dit quelque chose, mais ça me prend le go de Claude Picasso. Et moi, j'avais marqué à Claude Picasso, bonjour Monsieur Picasso, voici votre dossier monté comme vous le voulez, et tout ça. PS, bien humblement, j'ai analysé l'œuvre et d'après moi, c'est 3-4 œuvres de votre père des années 50 avec une signature des années 20. Lui, il me réécrit et il me dit oui, vous avez raison, c'est un faux tableau. Je l'ai déjà vu ce tableau-là en 1991 chez un bureau d'avocat. Et lui, il marque en bas. Bon, il dit vous avez raison, c'est 5 tableaux de mon père mis ensemble. Voyez ici la chaise, voyez le vase. Bon, OK. Et c'est une signature des années 24-25. Parce qu'il existe des milliers d'exemplaires de signatures. Puis le peintre, sa signature évolue. On est capable de la fixer dans le temps.
Fait qu'on a pris la signature,
on a pris 5-6 tableaux, puis on a mis ça ensemble. Puis lui, Marc, il sait pas ce que je faisais dans la vie, lui. Il marque en post-scriptum, vous auriez été un très bon enquêteur.
Ah! Il
savait pas que je l'ai été pendant 28
ans. Mais je pense que c'est Bernard Arnault, là, de LVMH, qui avait mis je sais plus combien de millions d'euros dans une statue égyptienne qui pensait qu'il datait vraiment de l'Antiquité. Et qui s'est fait avoir lamentablement. Ça fait toute une histoire en France. Moi, j'avais suivi ça parce que j'aime bien tout ce qui touche l'Égypte et l'Antiquité. Mais... c'est fascinant de voir que des personnalités comme ça, avec tous les experts qui les entourent, se font avoir. Imaginez-nous, là,
avec peu
de capacité.
La meilleure façon de ne pas se faire avoir, c'est quoi? C'est d'acheter un peintre qui est vivant.
Ouais.
Bon, mais là, on ne peut pas se faire avoir. Mais
puis de l'acheter du peintre lui-même, puis de le voir peindre pendant...
Non, de la galerie qui le représente.
Ouais,
bon, là, on est à peu près sûr que c'est bon, que c'est correct.
Ouais.
Mais c'est ce que je fais, là. J'en fais 2000 évaluations en moyenne par année, là. Et à toutes les fois que je fais une évaluation, je vais le faire confirmer par la famille, la fondation, l'expert ou le peintre lui-même.
Ouais.
Même si j'ai le papier qui va avec l'œuvre, je dois reconfirmer par l'expert, parce que le papier peut aussi ne pas être bon. J'avais un faussaire de Québec, ce qu'il faisait, il faisait faire le certificat d'authenticité avec le vrai tableau, il faisait une réplique identique de l'œuvre et il vendait le faux avec le vrai certificat. Deux ans après, il retournait voir Iseult Riopel ou Jean-Pierre Valentin pour avoir un autre certificat pour la même œuvre. Mais j'en ai déjà fait une, oui, mais on l'a perdu, il en refaisait un autre.
Oh mon Dieu.
Donc, c'était intelligent, mais on
l'a
découvert.
Il y a des faussaires qui sont, il y a un Québécois, entre autres, j'avais lu tout un article sur lui, c'est un ancien prisonnier qui, justement, avait développé son art en prison, puis qui était vraiment, vraiment très, très bon. Là.
Oui, je sais, il y a des gens qui sont des techniciens.
Ouais.
Un faussaire, c'est pas un artiste, c'est pas un créateur. C'est un technicien, puis il y a des enfants de 9 ans qui peuvent représenter la Joconde parfaitement. Ça peut prendre 3 heures, 3 semaines, 3 mois. Mais c'est pas son talent, là. C'est un technicien, comme un génie civil qui fait des lignes ou ben non, qui fait des routes. Mm-hmm. Fait que moi, quand les artistes ou les faussaires qui viennent dans mes conférences me disent « ça prend beaucoup de talent pour faire la reproduction de la Joconde », pas du tout. Ça prend un technicien, puis ça prend Renaud Dépôt qui mélange les couleurs. Puis là, qu'on prend, on analyse avec un scan maintenant la couleur bleue qui nous dit « rajouter ça, ça, ça ». Ben le faussaire, c'est ça qu'il fait. Fait que c'est, il n'y a pas de création. C'est un créateur qui est bon. J'aime à dire, celui qui a inventé le bouton à 4 trous, c'est un génie. Puis celui qui a fait le bouton à 3 trous, ben c'est pas fort, fort. C'est...
Alain Lacroixière, vous restez avec nous, bien sûr. Bien. C'est fascinant tout ça. On a déjà des gens qui veulent, je pense, vous poser des questions. Bon. Beaucoup de gens qui veulent savoir si ce qu'ils ont dans leur grenier, c'est une bonne chose.
Ouais.
Vous nous direz jusqu'où vous pouvez aller là-dessus.
Bien sûr.
514-790-9850 pour rejoindre notre invité et discuter de tout ça. Est-ce que ça serait intéressant pour vous quand on vous dit qu'investir dans l'art, c'est peut-être aussi payant, sinon plus, parfois? Si vous êtes patient, c'est comme d'autres choses. La bourse aussi, le REER aussi. Là.
Oui, exact.
Hein? Tout est pareil. Là.
Exactement.
Alors, est-ce que ça vous donne envie peut-être d'acheter des œuvres d'art? Moi, je pense que c'est intéressant de développer son goût pour l'art aussi. Les maisons où il y a de l'art, je trouve que c'est des maisons toujours plus accueillantes et plus chaleureuses.
Vous avez raison.
On vient tout de suite après ceci. On a Lucie avec nous. Bonjour, Lucie.
Oui, bonjour. Moi, j'ai une de mes sœurs qui avait investi dans l'art, là, dans des tableaux de grands peintres là, qui ne valent pas 5 sous. Malheureusement, elle est décédée.
Oui.
Et on a essayé de revendre les tableaux.
Ouais.
Les seules propositions qu'on a eues de galeries d'art, autant de Québec, de la Malbaie que de Montréal, c'est qu'ils peuvent prendre le tableau, essayer de le vendre, et s'ils le vendent, ils gardent 60% du montant et nous redonnent 40% du montant.
Vous voulez savoir si le tarif est standard, c'est ça? Si c'est normal?
Est-ce que c'est normal? Puis le 40% qu'ils nous donnent, c'est souvent très inférieur au montant que ma sœur avait payé pour ses tableaux.
Oui, c'est normal, là, 60-40. La majorité des galeries, c'est 50-50
ouais.
pour toutes les œuvres en bas de 25 000 au Québec. Au niveau international, c'est la même chose aussi. Les galeries, puis là, quand on monte de prix, on baisse la commission à 30, jusqu'à 1,5 million à 20 % en haut du million à 10 % 8 % ça dépend. Mais oui, il y a deux prix pour tout, là, pour tout objet, là. Il y a le prix de gros, il y a le prix de détail. Quand on achète des œuvres en galerie, oui, il y a des œuvres québécoises, il y a des œuvres canadiennes ou internationales qui vont perdre de la valeur dans le temps parce que c'est plus à la mode, c'est pas muséal ou c'est pas collectionné maintenant. Il y a deux façons. Oui, à l'encan, on va vendre ces œuvres-là, puis on va faire encore moins de sous, puis il y a des frais d'encan, c'est sûr. Mais en galerie, on va nous remettre 50 ou 40 %, mais là, sur la totalité de la... Ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans la collection, ça dépend des œuvres aussi. Parce que
ça, c'est des peintres québécois, Lucie, dont vous parlez, c'est ça?
Pas nécessairement québécois,
non?
Là.
Okay.
Des grands peintres, là, reconnus, là. Oh, oui.
Mais ça, si elle a payé trop cher, écoutez,
ouais,
c'est magasiné avant, c'est de voir ailleurs combien ça se vend. Les évaluations que je fais, c'est sûr, c'est la juste valeur marchande. Donc, c'est les galeries qui vendent ces œuvres-là dans le monde le plus haut. Quand quelqu'un est bien informé qu'il va acheter cette œuvre-là à ce prix-là. Il y a des galeries qui vendent moins cher, il y a des encans que ça va être moins cher. Mais pour une collection, ça dépend vraiment ce qu'il y a dans chaque collection. Moi, j'ai des collections de 50 ans, de 40 ans ou de 30 ans, 20 ans. J'en ai fait une la semaine passée de 20 ans où la personne, sur la totalité des œuvres, il y en a qui ont perdu de valeur, il y en a qui ont gardé leur valeur, il y en a qui ont augmenté de valeur. Mais sur la totalité, la personne a fait 15 % par année.
Faut-tu payer de l'impôt là-dessus? C'est-tu comme un revenu? Ah, ben là, oui, la plus-value comme un immeuble?
Si c'est un don aux enfants, par exemple, ouais. L'impôt va être payé lorsqu'il y aura revente. Et le gain en capital va être calculé par Impôt Canada, oui. Si on donne
un
musée...
On s'en sort pas,
mais il y a moyen d'en profiter pendant longtemps pour pas payer. Mais si ça prend de la valeur, c'est tant mieux.
Ouais.
Mais si c'est un don, ben non, si ça a perdu de la valeur, le gain en capital n'est pas à payer, justement.
Mm-hmm.
Donc, lorsqu'on donne à un musée, ben là, c'est là que c'est le plus rentable. Il n'y a pas de gain en capital, puis on récupère.
Merci, Lucie, de votre question. On a Charles avec nous. Bonjour, Charles.
Bonjour, sujet très intéressant ce matin.
Merci.
Ma conjointe s'est mise à acheter des chagals sur des sites d'encan spécialisés aux États-Unis.
Mm-hmm.
Naturellement, on a payé entre 500 et 800 US pour les chagals, la date. Ils sont encore
aux États-Unis.
Non, ben c'est ça. Je me mets un doute dans mon esprit. Et,
c'est bon, tu as un doute.
Alain Lacourcière dit c'est bon de douter dans ce cas-là.
Oui, oui. Ouais.
C'est ça qui est important. Et l'autre chose, c'est pour les importer ici au Canada et si on va en Europe cet été, est-ce qu'on paye des taxes en rentrant? C'est toujours la question.
Ouais,
si on ramène des œuvres d'art, des tableaux, c'est quoi qu'on peut faire pour ne pas payer les taxes qu'on a payées?
Ben, pour ne pas payer les taxes, on peut rien faire là, parce qu'on importe un bien ici qui est en haut de 1000 $ donc on paye des taxes à l'entrée ici, c'est-à-dire 8 % de taxes à payer. Mais... du Chagall, du Picasso, du Miro, il y en existe de tous les prix. Ça dépend de l'édition. On parle pas d'une œuvre originale, là, parce qu'on sera dans le million. Mais l'édition, une lithographie, il y a des éditions de 100, il y a des éditions de 250, il y a des éditions de 2500. Et là, faut savoir que les éditions recherchées, c'est sûr que moins il y en a, plus c'est recherché.
Ouais.
L'unicité crée justement la recherche. Mais oui, si on l'aime, mais si c'est mieux que d'acheter un poster lorsqu'on achète une édition, quelque chose qui est quand même répertorié comme étant une œuvre
Dès qu'il y a un numéro, devient plus intéressant.
Oui, mais quand on tombe dans le 4500 et dans le 18000...
Oui, c'est 1 sur 22, c'est plus fun quand même.
Exactement,
On a Claudette avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Allez-y.
Moi, j'ai un Jean-Paul Lemieux, une lithographie de Jean-Paul Lemieux. Le tableau, c'est la Noura.
Oui, je connais.
Et je voulais savoir si... ça a de la valeur ou...
Oui, ça a de la valeur, mais ça dépend encore là de l'édition. Là, je me souviens plus de l'édition qui est des lithographies de Jean-Paul Lemieux. Mais il faut toujours aussi que je la voie, là, ou que quelqu'un la voie. Parce que ce que j'ai, là, puis ce que j'ai vu aussi dernièrement... des photocopies de lithographie.
Ah ouais.
Avec les nouvelles photocopieuses qu'on a à haute définition maintenant, on fait des miracles.
Ouais.
Et là, ben, on a la signature de l'artiste en bas qui a l'air au plomb, mais qui est en fait une photocopie. Fait que dans tous les cas, faut que je voie l'œuvre pour me prononcer, c'est sûr. Et pour le prix, Jean-Paul Lemieux, oui, mais comme toutes les lithographies, ça prend moins de valeur que l'œuvre originale, mais dans le temps, je vais vous donner l'album La Petite Poule d'eau de Jean-Paul Lemieux qui valait 2000 $ il y a 15 ans, est vendu maintenant 20-22 000. Donc, c'est des lithographies de Jean-Paul Lemieux qui sont dans ce coffret-là. Il y en a 20. Donc, oui, c'est une lithographie. Donc, c'est reconnu par un maître graveur comme étant quelque chose de collection, oui.
Ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il faut d'abord et avant tout avoir un coup de cœur pour l'œuvre qu'on achète.
Oui, bien évidemment.
Ouais. Est-ce que ça vaut la peine d'emprunter pour...
Ça dépend des taux à qui on emprunte aussi pour s'acheter quelque chose. Des fois, ça peut être rentable, oui. S'il manque quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de dollars et moi, j'ai des gens qui prêtent en or. J'ai des prêteurs personnels qui vont prêter à des gens qui vont mettre en garantie leurs œuvres d'art pour un prêt pour en acheter d'autres. Il y a tout un système financier qui existe.
Fait que là, vous suggérez aussi à Alain Lacourcière un petit cours en histoire de l'art.
Bien sûr.
Ça peut toujours aider aussi.
Puis c'est fascinant d'étudier en art à l'université. C'est fabuleux.
Exactement. Oui. Merci beaucoup. On pourrait parler de ce sujet-là pendant des heures. Moi, ça me fascine. Je trouve ça... Ben, vous reviendrez nous voir.
Ben, n'importe
quand. C'est un grand plaisir de vous avoir reçu.
Merci
beaucoup, Alain Lacourcière, consultant en œuvre d'art. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Nous recevons trois jeunes stars des réseaux sociaux qui vont nous dire un peu qu'est-ce que ça fait d'être une influenceuse. À tout de suite, tout le monde.